africains, nous pouvons connaître peut-être de l'Égypte. À un moment donné, il nous a semblé, n'est-ce pas, que l'Égypte voulait prendre un certain leadership des nations arabes. Comment vous, n'est-ce pas, comme citoyen, puisque vous insistez pour dire que vous êtes un citoyen à part entière et pas différent des autres, comment vous vous situez, par exemple, par rapport à certains problèmes que vous pouvez connaître actuellement en Égypte, et nous sommes en particulier qu'il y a ce grand problème d'un redressement national, d'un pays qui accepte d'être peut-être moins un leader, finalement, que d'un pays qui accepte de considérer un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent pour sa population.
Je crois que tous les pays arabes sont logés à la même enseigne quand on parle d'arabisme, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. C'est vrai, que l'arabisme pourrait se teinter de pan-islamisme. Et je trouve très normal dans un pays comme la Saoudie ou le Koweït, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui n'ont pas de chrétiens autochtones. Dans toute la côte de l'Afrique du Nord, les églises ont disparu. La splendide église de Carthage n'existe plus. Les chrétiens de l'Afrique du Nord sont des chrétiens importés, ne sont pas des chrétiens autochtones. C'est normal que ces pays, qui n'ont pas des autochtones chrétiens, mélangent encore davantage le concept pan-islamisme avec le concept pan-arabisme, d'autant plus que l'islam est une religion non seulement qui régit le rapport de l'homme avec Dieu, mais aussi de l'homme avec l'homme. Contrairement à la religion chrétienne, qui fait cette séparation. Aujourd'hui, on veut dépasser cette séparation. On veut que l'Église soit dans le monde. Mais l'islam a toujours été dans le monde en réglant les rapports même juridiques entre personnes. Donc, il y a cette confusion de patriotisme, de nationalisme avec l'islamisme qui est normale. Mais venons dans les pays arabes qui ont, je n'aime pas le mot, vous non plus, le mot minorité chrétienne. J'entends par là l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak, spécialement.
Combien y a-t-il de chrétiens en Égypte ?
Bon, ça a été beaucoup discuté. Pas moins de 4, pas plus que 8. Si j'affirmais une moyenne de 6 millions sur 38 millions et demi, je crois que je serais dans la mesure exacte. Mais nous n'avons pas compté réellement le nombre de chrétiens, mais tout porte à croire que c'est aux environs de 6 millions.
Donc cette minorité, vous disiez, qui est tout à fait différente de celle qu'on peut trouver en Algérie, et
oui.
Ça, a une attitude différente face aux politiques nationales.
Oui, évidemment.
Mais vous-même, vous êtes président donc, d'une association chrétienne, oui. De choses pour les écoles et le développement social. Qu'est-ce que vous entendez faire dans cette association-là?
Eh bien, malheureusement, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on les fait parfois à moitié, mais on essaie d'aller au fond des problèmes. Nous, dans l'association qui est dirigée par une équipe en majeure partie de laïcs, 10 personnes la dirigent et elle vient de se définir en septembre comme étant un président élargi. C'est-à-dire, c'est 10 personnes qui assument le poids de la réflexion, de la vision et de l'exécution des grands projets et des relations avec les diverses églises et avec l'État. Nous avons découvert très vite que nous avons une double appartenance. Nous avons une appartenance nationale que nous sentons très fort et nous avons une appartenance religieuse que nous sentons aussi fort. Et c'est bien vite qu'on a découvert qu'elle se complétait et que pour être un bon chrétien, il fallait savoir être présent dans la cité, dans les problèmes de la cité. C'est-à-dire que ma dimension de chrétien ne peut être réalisée que si je m'implique dans les problèmes de mon pays.
Mais ce que vous dites me surprend un peu, parce que récemment je lisais un texte sur le christianisme en Égypte, et on me disait que justement au contraire, les chrétiens égyptiens avaient plutôt une tendance à se séparer du monde, à avoir une spiritualité monastique, une spiritualité du désert.
Mais c'est tout à fait exact, sinon nous n'aurions pas découvert cela. Cela aurait été découvert bien avant nous. Et il faut là s'arrêter un moment pour s'incliner devant l'église copte, j'ai une mauvaise grâce de le dire moi-même, mais ce qui est vraiment attachant dans cette église, c'est les qualités, d'abord, de pauvreté. C'est une église pauvre. Alors qu'en Occident, tout le monde se met à culpa parce que l'église paraît riche, alors qu'elle a été créée par les pauvres, pour les pauvres. Chez nous, elle est restée pauvre. Vous savez très bien que chaque église se développe et à l'aspect du milieu auquel elle appartient. Ça fait que lorsque l'Égypte est déclinée à travers 2000 ans, après sa gloire du passé, décliné vers le bas de l'échelle socio-économique où nous nous trouvons aujourd'hui. Aussi l'Église a suivi cette marche. D'un autre côté, l'Église était devenue autocéphale et elle devait se protéger contre deux dangers. Et il y avait d'abord le danger du conquérant islamique, qui est musulman, qui était là et qui n'était pas toujours très bienveillant vis-à-vis de la minorité chrétienne. La religion islamique pourtant est une religion de miséricorde et une religion de tolérance.
Mais le chrétien est toujours considéré comme un infidèle.
Oui et non. Il y a certains textes qui vous disent oui, il y a certains textes qui vous disent non. Parce qu'il y a des textes, vous m'avez fait sortir de mon sujet, parce que je vais répondre à ça tout à l'heure. Je disais donc que c'était une religion tolérante, mais il y avait des gouvernants qui ne l'étaient pas. Et alors, cette église d'Égypte a dû se défendre contre des exactions à travers les siècles. D'un autre côté, l'église d'Égypte, l'église d'Alexandrie, devait se défendre aussi des courants occidentaux, car c'était l'autre église qui était devenue la compétitrice. Et quand les premiers missionnaires sont venus catholiques à la fin du XVIIe, puis des missionnaires protestants venant des États-Unis aussi, et qui ont fait 100 000 coptes catholiques de là et 100 000 coptes protestants d'ici, eh bien c'était aussi nécessaire d'élever de remparts pour protéger cette église contre cette nouvelle conquête catholico-protestante. Cette église donc a vécu à l'intérieur de ses murs pour se conserver. Et elle a conservé même la manière de prier, la manière très spiritualiste de se retrouver avec Dieu dans le désert et d'être loin du monde en faisant très fort la différence entre le temporel et le spirituel. Aujourd'hui, nous essayons de dépasser cela. L'église copte orthodoxe n'a pas fait partie, évidemment, du concile de l'église catholique Vatican II. Néanmoins, dans le dialogue actuel entre les deux églises, on est en train de développer cette notion de la participation du chrétien, pas par opportunisme, pour qu'il soit citoyen toujours de première zone, mais par devoir chrétien de s'engager dans tous les problèmes nationaux du pays.
Parlons du dialogue justement entre les coptes catholiques et les coptes orthodoxes. Et je sais que vous êtes un des artisans de ce dialogue, et plus encore que le point de vue des orthodoxes comme le point de vue des catholiques, vous le connaissez de l'intérieur.
Mm-hmm.
Est-ce que vous pourriez nous parler de ce dialogue?
Oui. D'abord, ce n'est pas un dialogue entre l'église copte catholique. C'est un dialogue entre l'église catholique universelle et l'église copte orthodoxe. Il a été initié par un acte de courage de la part du pape Chenaud d'Atois, des coptes orthodoxes, quand en mai 1973, il s'était rendu à Rome pour la première fois depuis la séparation, depuis 1600 ans, qu'il ne se parlait pas, sauf pour s'anathémiser. C'est la première fois que le pape, patriarche d'Alexandrie, se rendait rencontrer le pape de Rome. Cette rencontre a été préparée très soigneusement plusieurs mois à l'avance, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une rencontre spectaculaire entre deux chefs d'église qui se donneraient la collade, et puis c'est tout. Mais il fallait sortir de là, avec une déclaration conjointe, dans laquelle il y ait une profession de foi commune, une reconnaissance réciproque des valeurs et des sacrements de chaque église, et après cette découverte sur papier, initier un dialogue sérieux pour une communion totale entre les deux églises. Ce qui a eu lieu, et le document a été signé en mai 1973, quand le pape Shenouda est allé à Rome avec 10 de ses évêques, et le document portait constitution d'une commission mixte. Cette commission a été constituée quelques mois plus tard, il y a 7 catholiques et 7 orthodoxes. Les 7 catholiques comprennent 4 occidentaux et 3 du pays même copte catholique, dont je suis. Et le côté orthodoxe aussi est composé de 7 personnes, dont aussi un correspondant laïc de l'autre côté. Nous sommes les deux seuls laïcs de cette commission. Ce dialogue a commencé d'une manière très saine, c'est-à-dire violemment. Et l'église copte orthodoxe, pendant la première session, la première journée, a explosé en faisant sortir toute la douleur qu'elle éprouvait des erreurs commises par les catholiques dans le temps, en disant « Vos missionnaires, qui ont pour but de propager l'Évangile, sont venus en Égypte pour convertir à la foi chrétienne des gens qui déjà la professaient. »
Et vous-même, M. Fahim, vous êtes de ceux-là?
Moi-même, je suis de ceux-là. Mais je n'ai pas été converti.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, on entend par conversion, je vais vous dire la terminologie que l'on, qu'on a découverte récemment, qui fait un peu rire, ça s'appelle le prosélytisme de mauvaise aloi. C'est-à-dire qu'on utilise des moyens de pression financiers ou moraux pour amener quelqu'un à changer de confession. C'est ce qui se pratiquait parfois dans le passé, on doit l'avouer. Bon, pour ma part, moi je suis né copte orthodoxe, et j'ai été éduqué dans le collège des pères jésuites. Je ne voyais aucune différence, je ne comprenais rien. Je voulais être comme la majorité, c'est pas mimétisme peut-être, quand j'étais tout petit. Puis plus tard, j'ai voulu savoir quelle était la différence entre les deux. Et j'ai étudié avec des catholiques et des orthodoxes, des hommes de religion. Avec toutes les connaissances réduites que je pouvais avoir à l'âge de 19 ou 20 ans, j'ai compris finalement que la querelle n'était pas théologique. Ce n'était pas une question d'une ou de la nature du Christ. C'était une querelle politique, parce qu'il y avait les deux empires d'Orient et d'Occident. Et peut-être que l'un ne voulait pas que le chef des chrétiens, chez lui, se trouve dans l'autre empire. Le fait est que, par cette réaction de jeunesse, qui veut dire « je ne veux pas perpétuer l'erreur de mes pères, je ne veux pas être un mouton qui suit, eh bien, je ferai ce que je juge bon. » Et je suis devenu catholique en ne trouvant pas que l'une des religions était meilleure que l'autre, c'est la même religion. Peut-être aussi parce que l'éducation que nous avons reçue, qui était un peu occidentalisée, bien qu'ayant fait mon baccalauréat égyptien, faisait que on correspondait mieux dans la forme qui vous a été inculquée pendant que vous étiez dans un endroit où vous avez été enseigné. Ce n'est pas du tout parce que j'ai préféré une confession à l'autre. Mais ça m'a permis de jouer le rôle que je joue aujourd'hui, parce que je comprends les deux très bien. Et ça me fait mal, plus qu'à quelqu'un d'autre, de voir cette séparation absurde. Alors qu'il y a eu un seul Christ et qui a institué une seule religion, au nom du Christ, les êtres humains se sont acharnés à déchirer son corps mystique et à le multiplier en plusieurs religions. Il y a, je crois, 230 églises membres du Conseil mondial des églises. Et cela se fait au nom du Christ. Je trouve que c'est une aberration. Alors, à l'intérieur du pays où nous avons surtout devant nous cette grande église copte-orthodoxe, qui avait conservé toutes les valeurs de persévérance, de patience, de spiritualité, de pauvreté, de dépouillement, eh bien, la première réaction dans un pays, c'est comme tel, c'est de se sentir tous unis. Et c'est pour cela que, personnellement, j'œuvre beaucoup dans cela. Et l'association, c'est un des défis qu'elle a levé en Haute-Égypte, en dialoguant avec les hiérarchies catholiques et les hiérarchies orthodoxes. Ce n'était pas facile, d'autant plus que nous appelions association catholique pour les écoles d'Égypte. Nous avons changé notre dénomination en association chrétienne, et cela ne veut pas dire que nos services sont concentrés ou sont l'exclusivité des chrétiens. Au contraire, c'est un autre défi aussi qui n'est pas facile à relever. C'est de proclamer par l'action que le service rendu par l'Église, afin qu'il soit un véritable service, doit être universel, doit englober tout le milieu.
C'est donc que vous êtes prêt aussi à rendre service à des musulmans, non?
Je ne suis pas prêt. Le tiers de nos élèves sont musulmans. Nous avons 10 500 élèves et nous avons plus de 3000 élèves musulmans.
Est-ce que ça pose des problèmes?
Aucun problème. Ça posait des problèmes avec nos chefs religieux, peut-être au début, mais nous avons dépassé cette notion. Nous tenons à ce que nos institutions soient au service des plus pauvres et non pas des plus chrétiens.
C'est donc une préoccupation sociale extrêmement importante que vous
avez. Sûrement, parce que si les chrétiens et les musulmans, sur les bancs du primaire, apprennent à s'aimer, et si l'enseignement coranique est donné aux élèves musulmans chez nous, à l'intérieur des murs chrétiens, il s'en souviendra toute sa vie. Il dira, ceux-là ne sont pas fanatiques. Il ne discriminera pas. Pourquoi c'est nous qui devons toujours attendre qu'on ne nous discrimine pas? Pourquoi ce n'est pas nous qui commençons à ne pas discriminer les autres?
Mais j'ai lu justement quelque part que les copes, les chrétiens, souffraient de discrimination en Égypte, de la part des musulmans.
Bon, là, je vous dis d'abord, partout où je passe, en Europe, ici, on me tente, les journalistes, mes confrères, j'ai fait 10 ans de journaliste au début de ma vie, on est très heureux d'entendre dire, si je pouvais affirmer qu'il y a une discrimination, et si je pouvais affirmer que c'est une persécution, ça fait un bon titre sur 3 colonnes. Bon, maintenant nous allons aller pour la vérité, et sans aucune idée de faire plaisir à mon gouvernement, ni à personne, je vais proclamer la chose telle qu'elle est. Là où l'homme a existé avec l'homme, me semble-t-il, il l'a toujours discriminé, pour une raison ou une autre. Que ce soit une question de langue, que ce soit une question de couleur, de religion, de tribu.
Même de taille. Les grands d'un côté, les petits de l'autre.
Vous voyez ? C'est une chose donc inhérente à la nature humaine. Bon, venons chez nous maintenant. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Il y a des chrétiens et des musulmans dans d'autres pays arabes. Commençons par constater qu'en Égypte, c'est là où chrétiens et musulmans vivent le mieux en intelligence. Nous sommes aussi un peuple, malgré la propagande qu'on nous a faite et dans laquelle nous sommes un peu responsables, nous sommes un peuple qui cherchons la paix. Nous sommes un peuple serein, nous sommes un peuple de plaine, nous sommes un peuple patient. Nous pouvons attendre des siècles une éclaircie. Et nous savons convivre les uns avec les autres. Seulement, il ne s'agit pas uniquement de convivance. Parce qu'une convivance veut dire vivre avec. Mais il faut vivre dans. Il faut s'entremêler. Cela est en train de se produire. Nous avons connu des siècles de tribulations, sûrement. Mais aujourd'hui, dans l'Égypte moderne, avec tout ce que nous avons traversé comme épreuve, de lutte pour notre indépendance quand nous étions occupés par les Anglais, la révolution nationale de 1919, la vie démocratique que nous avons connue jusqu'au régime nassérien, avec les partis qui se trouvaient. Féodaux s'est entendu, mais il y avait des partis divers. Processus de démocratisation arrêté pendant le règne nassérien, repris par Sadat. Ça, c'est l'analyse d'un Algérien que je trouvais très intéressante. Et c'est vrai. Bien, à travers toute cette période où musulmans et chrétiens ont vécu les mêmes événements politiques, ont eu les mêmes rêves, les mêmes souffrances, les mêmes tribulations. Nous sommes tellement imbriqués, surtout dans la cité, qu'on ne peut pas parler de discrimination. Oui, discrimination, il y a dans les cœurs des individus. Et l'erreur des uns, c'est de ne pas remarquer qu'ils ont la discrimination au fond de leur cœur à eux. Et nous pratiquons cette parabole de la paille et de la poutre et on voit la discrimination que l'autre pourrait faire. Mais de discrimination voulue par l'État, planifiée par l'État, j'affirme non. Le président Sadat vient de prendre une initiative très courageuse parce que le domaine religion est un domaine très sensible parce qu'il y a toujours les ultras de chaque côté. Il y a toujours les préventions. Quand il prend l'initiative de provoquer une réunion de tout l'aréopage des grands ulémas, tous les chefs de la sorte, avec tous les synodes coptes orthodoxes, il y a 45 évêques, je crois qu'il y avait 25 ou 30 qui sont venus de toutes les parties de l'Égypte y assister. Et que dans cette réunion qui n'a pas été préparé d'abord, qui n'a pas été télévisé puis projeté, mais qui a été pris sur le vif à travers toute la population, il a eu le courage pour la première fois de rassembler les deux, et dans les deux de provoquer un discours de la part du recteur de l'Azhar et un magistral discours de la part du pape Shenouda, qui a finalement placé les chrétiens au niveau où il fallait les placer.
C'est-à-dire
que j'estime une très grande erreur de la part des chrétiens d'avoir, par le passé, réclamé des droits quand ils sentaient qu'ils n'avaient pas parfois tous les droits dans tous les domaines. Avec cette mentalité de dire, monsieur, il m'a frappé, monsieur, on m'a fait ceci, mais nommez-moi là. C'est par l'action, par la disposition d'esprit, par la politique du torse bombé, quand on avance avec confiance et qu'on remplit son devoir dans le pays, sans attendre que quelqu'un ne vous dise « venez », et alors à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais c'est se retrancher et dire « bon, je voudrais quand même ceci ou cela, faites-moi justice dans cela », et bien c'est là où on vous considérera comme minorité. Le pape Shenouda a mis la main de l'Église dans la main de l'État dans ce discours d'une manière très valable, d'une manière très concrète, loin des concifs et des bons mots. Il a dit au président Sadat « vous avez déjà déclaré, il y a quelque temps, qu'un développement économique ne peut pas réussir s'il ne va pas de pair avec un développement moral, sans que l'Égyptien ne redécouvre au fond de lui l'authenticité de ses qualités. À ce moment-là, nous, Église, nous mettons notre main dans la vôtre pour contribuer à la construction de l'homme de demain et de l'Égypte de demain. » C'est un langage adulte. Et c'est ce langage adulte qu'on doit tenir. Et c'est à ce moment-là que le confessionnalisme latent, pas grave, pourra être dépassé. Mais je maintiens ce confessionnalisme voulu par l'État, non. Il fut un temps peut-être, mais il est bien dépassé.
Les difficultés connues jadis par les chrétiens d'Égypte ont été à la source de toute l'expérience monastique de l'Église. Dans le désert, ces chrétiens, descendants des grands Égyptiens de l'époque des pharaons, entendaient mener une vie toute subordonnée à la quête de Dieu.